Alors vous voyez tout ça, c'est très très beau, c'est bien un tout petit peu d'imagination. Et c'est très touchant. Quand on arrivera au ciel, on verra que dans notre théologie, il y avait beaucoup d'imagination, mais c'était très touchant. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et Dieu purifie, purifie, purifie pour nous mettre devant une réalité qui est encore plus belle. Oui, c'est comme pour le mystère de l'Immaculée Conception chez saint Thomas. Et puis la réalité qui vient. Et je crois que c'est constamment comme ça. Ça ne nous empêche pas. Hein. La théologie, c'est une recherche de la vérité. La vérité plénière, on ne l'aura qu'au ciel. Ici sur Terre, on gratte, on essaie de comprendre un tout petit peu. Mais cet effort, hein, n'oubliez pas que cet effort de la vérité sera comblé dans la vision béatifique, en fonction de votre désir. Hein. Quand on a compris ça, alors on a une soif, soif énorme d'avoir la vérité, puisque on ouvre le récipient. Tout ce qu'on peut faire ici sur la terre, hein, c'est de faire que la béance de l'âme grandisse, grandisse, grandisse et devienne énorme. Alors à ce moment-là, la vision béatifique pourra combler tout. Dès que vous, aucune espèce, oh, vous l'avez rejeté, pas d'importance, aucune espèce d'importance. Alors vous serez comblé en fonction de ce tout petit désir de vérité. C'est pour ça qu'on fait de la théologie, c'est pour augmenter notre désir de vérité. C'est pas tellement pour les conclusions, mais c'est pour augmenter notre désir de vérité. En disant, mais oui, il y a tout ce domaine-là que je n'ai pas regardé. Le Fils de l'homme a-t-il assumé la chair par l'intermédiaire de l'âme? Cependant, saint Augustin écrit dans sa lettre à Volusianus, l'infinie puissance divine s'est unie une âme rationnelle et par elle un corps humain et tout l'homme afin de le rendre meilleur. Évidemment, c'est lui saint Augustin. Derrière, il y a une anthropologie pas tout à fait la même que celle de saint Thomas, puisqu'il y a Platon entre deux, et de l'autre côté, Aristote. Alors, on va voir le petit combat de Platon et d'Aristote, si vous voulez, par rapport au mystère de l'incarnation. C'est ça qui est intéressant. Et on reverrait le même combat aujourd'hui par rapport à tous ceux qui sont dans une perspective pannenbergienne, c'est-à-dire dans une perspective hegélienne. Vous voyez, parce qu'au fond, toute la théologie d'aujourd'hui est repensée en fonction de Hegel. Au point de départ, c'était les stoïciens, Platon, Aristote. Hein, il ne faut pas oublier, toujours. Et puis, à partir d'un moment, on abandonne Aristote, le grand génie devient Hegel. Et on veut tout repenser à la manière de Hegel. C'est bon de temps en temps, hein, de repenser tout à la manière de Hegel, pour non pas adhérer à ça, mais pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et c'est très vrai, quand vous entrez un tout petit peu, je vous ai dit, c'est bon de lire Pannenberg pour ce point de vue-là, pour comprendre tout le monde d'aujourd'hui. Parce que si vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas. Il y a des tas de choses que vous ne voyez pas. Parce que la plupart, hélas, hein, des gens d'aujourd'hui répètent ce que quelques théologiens ont pensé. Et ils répètent. Alors ils descendent le fleuve. Et plus on descend le fleuve, plus c'est matériel. Alors c'est toujours la même question. Peut-on avoir une théologie dialectique? La dialectique s'oppose à la contemplation. La théologie est contemplative. Autrement, elle n'est pas. Alors, elle est contemplative parce que la foi est contemplative. La foi n'est pas dialectique. Ça, c'est absolument pas. Elle ne peut pas être dialectique. Alors, si vous fourrez la dialectique hegélienne pour essayer de comprendre ce que c'est que la foi, au bout d'un certain temps, il n'y a plus que la dialectique hegélienne. Alors, la dialectique hegélienne, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est le devenir qui assume l'être. Tout est vu dans le devenir. Et donc, c'est le conditionnement qui assume la finalité. C'est ça qu'il faut saisir. Alors, le conditionnement qui assume la finalité, c'est que, au niveau théologique, vous ne voyez plus que le conditionnement. Au point de vue pastoral, vous ne voyez plus que le conditionnement, l'adaptation. Et puis c'est tout. Et vous oubliez complètement la finalité. Voilà. C'est pour ça que ça a des conséquences. C'est comme le mystère du Christ. On doit être témoin du mystère du Christ. On doit vivre du mystère du Christ. Et c'est ça notre vie. Hein. Et notre vie apostolique, c'est ça. Et c'est pour ça que même tous ces articles qui ont l'air à première vue secondaires sont quand même très importants. Toute cette vision de saint Thomas sur le mystère de l'Assomption. C'est important. C'est le mystère de l'union hypostatique. Hein. Entrez dedans. L'intermédiaire se dit par rapport au principe et au terme. Et comme eux, suppose un ordre. Medium, hein, metaxu, dicitu respectu principi et finis. Hein. Principe, c'est les choses très bêtes, hein, toujours le schème, terminus aquo, terminus et quem, medium. On va de Fribourg à Berne en passant par Flamatte. Hein, tous ceux qui ont été à Fribourg savent ça. Non, alors c'est la même chose ici. Vous allez de Montchanin à Paris sans intermédiaire. Ça c'est le progrès. On supprime les métaxus. Ça n'a l'air de rien, mais ça a énormément de répercussions psychologiques. On ne veut plus les métaxus. Les rapides n'ont pas de métaxu. Vous voyez, pour la confession. Hein, c'est ça, il y a un intermédiaire, que voulez-vous. Alors on supprime ça. Et on veut directement, moi je suis branché directement sur Dieu et sur le Christ. Les autres, hein, en chaîne à Paris. L'intermédiaire se dit par rapport aux principes et aux termes. Comme eux supposent un ordre. Or, il y a deux sortes d'ordre, l'ordre de temps et l'ordre de nature, l'ordre génétique et l'ordre de nature. Vous voyez, comme c'est important tout de suite. Hein. Et saint Thomas se sert ça à l'intermédiaire. Quand vous avez la perspective hegélienne, il n'y a plus qu'un seul ordre, l'ordre dialectique, qui est un désordre. Quand il n'y a plus qu'un seul ordre, c'est le désordre. C'est extraordinaire. Pour nous, hein, parce que nous avons toujours conditionnement et fin. Vous n'auriez appris que ça en philosophie, du moins appris, vous n'auriez saisi que ça en philosophie, eh bien c'est la clé, c'est le passe-partout, mais qu'il faut bien appliquer. Hein. Le passe-partout, vous êtes un voleur pour se servir d'un passe-partout, parce que les imbéciles... Bon, il y a deux sortes d'ordre, l'ordre de temps et l'ordre de nature. Sous le rapport de l'ordre temporel génétique, on peut parler d'intermédiaire dans le mystère de l'incarnation, car le Verbe de Dieu s'est uni dans le même instant toute la nature humaine. Donc sous le rapport de l'ordre temporel, on ne peut parler d'intermédiaire, car le Verbe de Dieu s'est uni dans le même instant toute la nature humaine, comme il apparaîtra dans la suite. In instanti. C'est merveilleux. Comme la création, elle est in instanti. Et là, on est avec un voltage encore plus rapide que la création. Hein. Parce que c'est la très sainte Trinité qui assume dans le Verbe. Quant à l'ordre de nature, il peut s'entendre de deux manières. Donc, nouvelle distinction. Ou bien il s'agit d'un ordre de dignité. C'est ainsi que nous disons que les anges sont intermédiaires entre les hommes et Dieu. Vous voyez comme c'est important. C'est un ordre de dignité. Les anges ont le prix d'excellence. Parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Et l'ordre de dignité, c'est l'intelligence. Ou bien il s'agit d'un ordre de causalité. Ah, ça c'est la finalité. C'est l'exercice. Et la volonté passe avant. Oui. C'est très très joli. Ces choses-là, saint Thomas les a déjà étudiées. Il les a étudiées en sachant, est-ce que l'intelligence est plus noble que la volonté? Et saint Thomas dit que l'intelligence a une dignité plus grande que la volonté, mais la volonté du côté de la causalité passe avant l'intelligence. Je ne sais pas, prix d'excellence et prix de vitesse. C'est deux choses différentes, hein. Il y a deux ordres différents, l'intelligence et l'amour. Alors vous retrouvez ça, vous voyez, c'est ces petites distinctions qui sont capitales. Si on veut comprendre l'analyse de saint Thomas, et si on ne fait pas ces distinctions-là, on est dans la confusion. C'est difficile à bien saisir. Où il s'agit d'un ordre de causalité, c'est ainsi que l'on parle d'une cause intermédiaire entre la cause première et l'effet ultime. Ce second ordre est de quelque façon une conséquence du premier, comme le dit Denis. L'ordre de dignité est premier. Dieu, par les substances qui sont plus proches de lui, agit sur les plus éloignés. Si donc nous considérons l'ordre de dignité, l'âme se trouve intermédiaire entre Dieu et la chair. Et en ce sens, on peut dire que le Fils de Dieu s'est uni la chair par l'intermédiaire de l'âme. Si d'autre part nous considérons l'ordre de causalité, l'âme est de quelque manière cause de l'union de la chair au Fils de Dieu. Celle-ci n'est assomptible, en effet, que par le rapport qu'elle soutient avec l'âme rationnelle, qui en fait une chair humaine. Comme nous l'avons dit, en effet, la nature humaine est plus que toute autre nature assomptible. Vous voyez donc trois distinctions, hein, trois ordres. Trois ordres qu'il faut toujours se rappeler. Et ça, c'est universel. Hein. Ça, c'est trois ordres vus dans une perspective de sagesse philosophique. Dans un ordre de sagesse philosophique, vous avez trois ordres. Et il s'agit, puisqu'il s'agit de préciser le mystère de l'incarnation, nous nous servons de ces trois ordres. Premièrement, ordre dans le temps. Deuxièmement, l'ordre de nature. De perfection. Ça, c'est classique. Hein, vous voyez bien. S'il n'y avait pas la distinction du devenir et de l'être, on ne pourrait pas faire cette distinction. Donc, vous voyez ce que ça vient en dialectique. L'être est absorbé par le devenir. Tandis que dès que vous faites la distinction entre devenir et l'être, ça c'est une grande acquisition de la philosophie grecque. L'acquisition qui a du temps, Parménide, Héraclite, chez Platon, vous retrouvez le même, alors c'est une séparation. Et cette distinction est reprise. Et après Hegel, on retrouve la séparation avec Hegel. C'est très connu, on retrouve toujours la même chose. Vous voyez, la confusion hegélienne du devenir absorbé, de l'être absorbé par le devenir, c'est très difficile de sortir de la pensée hegélienne. Heidegger a eu le mérite de séparer l'être du devenir après. Oh shit. C'est effrayant de faire ça. C'est un retour à Parménide. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il faut Heidegger pour avoir pour que tout le monde soit en admiration. Quelqu'un d'autre dirait ça. Mais quand même. Vous retournez à Parménide. Personne ne dit rien. Quand nous retournons à saint Thomas, vous voyez ce qu'on dit. Hein? Alors c'est extraordinaire. Lui retourne à Parménide pour faire la séparation, non pas la distinction. C'est là l'erreur de Heidegger. La séparation de l'être et de devenir. Et de penser l'être en niant le devenir, en niant les étangs. Les étangs, c'est au niveau du devenir. Alors, il faut redécouvrir, après Heidegger, non pas la séparation, mais la distinction. Il faut distinguer les deux, autrement, vous retombez dans une dualité, vous n'exprimez plus ce qu'est la réalité. Mais c'est intéressant, au point de vue courbe de la pensée, vous voyez, de notre philosophie occidentale, de voir ce cheminement, cette distinction qui était acquise, la perte de cette distinction, et puis on la retrouve. Et il s'agit pour nous d'être attentifs à ça. Alors, à l'intérieur de l'ordre de nature, A, B, dignité, causalité. Nous avons donc trois distinctions, trois ordres. Alors ça, c'est absolument général. Hein. Dès que vous pensez, vous pouvez toujours Pensez de ces trois manières-là. Vous voyez alors toutes les confusions qu'on peut faire. Si vous n'acceptez pas cette distinction-là, évidemment, vous ne pouvez plus accepter celle-là. L'ordre de la dignité. Je mets ça à titre d'exemple. Intelligence. Voilà. C'est là où vous trouvez mieux. La causalité, le primat de la causalité, c'est la fin. La fin est cause des causes, donc elle est première dans l'ordre de la causalité. Si elle est première dans la causalité, la fin, c'est implique le point de vue du bien, nous sommes donc dans l'ordre de la volonté. Alors c'est intéressant parce que vous voyez bien ici, vous trouvez d'une certaine manière Aristote, et puis ici vous trouvez le néoplatonisme. Vous comprenez bien ce que je veux dire, hein? Le néoplatonisme va mettre la volonté avant l'intelligence, donc ne va plus faire cette distinction-là. Le néoplatonisme ne fait plus cette distinction. On tombe dans la confusion. Et tous ceux qui sont dans le néoplatonisme tombent là. Et nous devons saisir. Alors qu'Aristote fait la distinction, saint Thomas continue, fait la distinction, parce que si vous mettez l'intelligence dans l'ordre de la dignité première, vous pouvez comprendre que l'intelligence se laisse battre par la causalité finale. Vous voyez, c'est le concours de Pierre et de Jean au sépulcre. Hein, c'est la dignité de Pierre et la rapidité de Jean. Alors vous avez les deux. Ça fait les deux causalités qui jouent. Hein. Dignité, causalité. C'est pour vous donner des petits fantasmes, tu vois. Alors à ce moment-là, vous commencez à comprendre. Parce que contrairement, dignité, causalité. Et c'est curieux parce que dans l'ordre, la vie bénédictine, vous savez bien, il y a deux ordres comme ça. L'ordre de dignité, l'ordre de causalité, on change l'ordre quand il s'agit de différents offices. C'est très intéressant. Il y a un ordre de dignité dans les processions. Qu'est-ce qui est premier ? La crosse est-elle devant ou derrière ? C'est important. La crosse et la mitre sont-elles devant ou derrière ? Alors il y a devant et derrière. L'ordre de dignité, l'ordre de causalité. Toujours ces deux aspects-là qui sont à chevaucher. Alors, quand il s'agit d'ordre du temps, in instanti, c'est fulgurant. C'est très très beau, hein? Parce que vous voyez, il y a une analogie entre la venue du Christ et le retour du Christ. Ce sera fulgurant. C'est in instanti, c'est l'éclair. Dieu vient dans le monde in instanti. Vous ne pouvez pas dire progressivement il y a un devenir. Non. La création se fait in instanti et l'incarnation se fait in instanti. Donc pas d'ordre dans la question du temps. Vous perdez votre temps à chercher cet ordre-là, hein, parce qu'il n'y en a pas. C'est la causalité première. Quand la causalité première intervient tout de suite, il n'y a plus d'ordre. Le temps est brûlé. Quand le verbe descend dans le temps, il assume le temps, donc. Il n'y a plus cet ordre-là. Tandis qu'au contraire, l'ordre de nature, lui. Alors oui, ça c'est l'analyse. Si vous confondez les deux, vous direz, mais je suis idiot de chercher ça. Il n'y a rien. Vous confondez. Vous supprimez le point de vue de l'intelligence. L'intelligence, c'est justement au niveau de l'être, au niveau de la nature, au niveau de la perfection. Et là, vous cherchez le point de vue de la dignité. Et le point de vue de la dignité, c'est évident, c'est l'âme. Par l'âme, on assume le corps. Par l'âme, on assume le corps. Il y a une possibilité de comprendre ce point de vue de la dignité de cette manière-là. Vous voyez ? Parce que justement, le corps ne peut pas être uni au Verbe de Dieu sans être un corps humain. Il est assumptible par là. On ne dit pas à quel moment, vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que ce que dit saint Thomas ici, ça reste vrai. Tous les progrès génétiques, hein, c'est complètement dépassé. Parce qu'on est en face d'un ordre de perfection. Alors, si donc nous considérons l'ordre de dignité, l'âme se trouve immédiatement entre Dieu et la chair. Et en ce sens, on peut dire que le Fils de Dieu s'est uni la chair par l'intermédiaire de l'âme. Voilà le métaxus. Si d'autre part nous considérons l'ordre de causalité, l'âme est de quelque manière cause de l'union de la chair au Fils de Dieu. puisque celle-ci, alors là, l'âme est cause. Là, elle est action, et là, elle est cause. Cause formelle, cause finale par rapport au corps. C'est par l'âme que le corps est assumé. Oui, donc on va préciser ce rôle particulier de l'âme par rapport au corps. Le verbe assume le corps par l'intermédiaire de l'âme. Le verbe assume le corps par l'intermédiaire de l'âme, l'âme jouant ce rôle de cause formelle, de cause finale par rapport au corps. Puisque le corps ne peut être uni au verbe que par l'intermédiaire de l'âme. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à comprendre ça, mais c'est intéressant la structure, c'est ça qui est intéressant là, c'est la structure que donne saint Thomas. Quand il s'agit de préciser un ordre, pensez tout de suite à ces trois aspects. C'est une petite synthèse admirable, au point de vue proprement sagesse théologique. Là, vous saisissez comment c'est vraiment la sagesse qui est directement au service de la foi. Parce que le propre du sage, c'est d'ordonner. Et vous trouvez ces trois ordres. Alors, voyons tout de suite les objections. Ça vaut la peine de ce premier article. Il ne semble pas que le Fils de Dieu est assumé la chair par l'intermédiaire de l'âme. Le mode d'union du Fils de Dieu à la nature humaine, en effet, est plus parfait que celui par lequel il existe dans toutes les créatures. Or, le Verbe est dans toutes les créatures de façon immédiate, par son essence, sa puissance et sa présence. À plus forte raison, par conséquent, il se trouve uni immédiatement à la chair sans l'intermédiaire de l'âme. Présence du Créateur. Dieu est présent à tout ce qui existe. Donc il est présent à la chair, puisque la chair existe. Sans intermédiaire. Présence d'immensité. Vous voyez, alors confusion de présence d'immensité avec ce que nous cherchons ici, qui est une présence dans l'ordre de l'Assomption. L'on peut envisager un double rapport entre la créature et Dieu. Tout de suite. Le premier qui tient à ce que les créatures sont causées par Dieu et dépendent de lui comme du principe de leur être. À ce point de vue, en effet, en ce point de vue, en vertu de l'infinité de sa puissance, Dieu atteint immédiatement toutes choses en les causant, en les conservant, et de cette manière, il est immédiatement en toute chose par son essence, par sa présence, par sa puissance. La triple modalité de l'omniprésence de Dieu. C'est le début de la somme. Je vous dis, ce traité de l'incarnation présuppose que toute la somme avant soit présente. Et vous voyez ici, vous en avez un exemple. Quand saint Thomas traite de la question de l'omniprésence de Dieu en toute chose, comme créateur. Comme créateur, il est présent en toute chose selon cette triple modalité. C'est une chose classique, ça, que saint Thomas reprend au Père de l'Église, par son essence, par sa présence, par sa puissance. Le second rapport vient de ce que les choses se ramènent à Dieu comme à leur fin. Vous voyez, les deux ordres de saint Thomas, qui ne sont pas ici, mais qui sont ici, deux aspects différents. Causalité créatrice. Causalité finale. Causalité créatrice, l'efficience. Dans un langage néoplatonicien, c'est l'egressus, le régressus, le retour. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui retourne vers Dieu. Alors, selon l'ordre de la causalité créatrice regarde l'essai participé. Et Dieu est présent dans tout essai participé. Présence par essence, par présence, par puissance, triple modalité. Il est présent substantiellement dans tout ce qui est, du fait même qu'il est. Du fait même que c'est une créature, il dépend totalement de Dieu et radicalement de Dieu. Tandis qu'au contraire ici, nous sommes dans le retour. Et le mystère de l'incarnation se présente dans le retour vers Dieu. Le second rapport vient de ce que les choses se ramènent à Dieu comme à leur fin. À ce point de vue, l'on trouve des intermédiaires entre la créature et Dieu. car les créatures inférieures se ramènent à Dieu par les supérieures, ainsi que l'enseigne Denis. Le néoplatonisme de Denis, assumé par saint Thomas dans le point de vue du retour et l'ordre de la sagesse dans le retour. C'est à ce rapport et à cet ordre qu'appartiennent l'assomption de la nature humaine par le Verbe de Dieu. Celui-ci, en effet, est le terme de l'assomption et se trouve uni à la chair par l'âme. Donc, voyez cette chose très importante, à bien saisir, quand il s'agit de l'ordre de la causalité vers l'essai. Pas d'intermédiaire, pas de médium, pas de métaxu. Dieu est immédiatement présent. Dieu ne peut pas se servir d'un intermédiaire pour la création. Quand il s'agit du retour vers Dieu, alors il y a des métaxus. Oui, il y a des métaxus, c'est un ordre de retour. Il y a une possibilité de comprendre qu'il y a un ordre par l'intermédiaire de l'âme, le corps retourne vers Dieu. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant. Alors il faudrait se demander, est-ce que cet ordre que dit saint Thomas est par rapport à ce que nous avons dit précédemment? Alors, je vous pose la colle. Nous avons vu trois ordres dans le corps de l'article. Nous voyons ici deux ordres. Est-ce que ça s'ajoute? Ou est-ce que c'est impliqué dans le corps de l'article?
Quoi?
Dans le corps de l'article, il est par rapport à la causalité finale ou par rapport à la causalité efficiente? Réfléchissez. C'est intéressant, il faut se le demander, parce que vraiment, vous voyez juxtaposer les uns à côté des autres. Dans la Trimove, saint Thomas montre les deux ordres très nets. Absolument, causalité efficiente du Créateur, le retour. Et ça, saint Thomas aime beaucoup ça. Et il montre ça sur Denis. Donc c'est nettement la perspective néoplatonicienne de l'egressus et le regressus, le retour. C'est dans la Trimove, c'est pas dans le corps de l'article. Il faut toujours être très attentif à ça. Ordinairement, dans les réponses, c'est plutôt les choses secondes. Le corps de l'article donne la structure de la pensée de saint Thomas, constamment. Pas dans les réponses. Les réponses, c'est plutôt du côté des propriétés, des choses secondes. Alors, est-ce que le corps de l'article, où est-ce que vous le situez par rapport à cette vision beaucoup plus générale? Beaucoup plus générale.
Le corps de l'article, le corps de l'analyse, ça c'est un ordre de sagesse, qui en fait qui n'est pas.
Ah, les deux sont un ordre de sagesse.
Ah, c'est un ordre d'analyse.
Ah, c'est un ordre de sagesse. Distinction de l'ordre du temps, l'être et le devenir, le point de vue de l'être, c'est un ordre de sagesse. C'est pas un ordre. Vous voyez, c'est un ordre de sagesse.
Mais l'être premier dans
la. Moi, je crois pas qu'on puisse dire que d'un côté c'est une analyse, si vous voulez, mais dans l'ordre de la sagesse c'est une analyse. C'est une analyse de sagesse.
La sagesse, c'est ce qui présuppose l'analyse.
Ah, mais il y a une analyse dans la sagesse.
Présuppose l'analyse.
Ah, pardon, vous n'avez pas. Elle est présente. Mais la sagesse, c'est pas la confusion.
Elle présuppose l'analyse, mais elle n'est pas l'analyse.
L'ordre est dans la sagesse. L'ordre est dans la sagesse. Et l'analyse est présente dans la sagesse. Pas autrement. Il n'y a que de l'acte de contemplation qui dépasse tout, mais l'acte de contemplation. Là, nous exprimons, c'est quand même un ordre de sagesse. Et ici, vous ne pouvez pas dire que ceci est plus un ordre de sagesse que celui-là. Ah non.
Ça implique d'être premier.
Moi, je dirais que celui-ci, vous voyez, est beaucoup plus général. Puisque celui-ci, c'est le point de vue habituel de toute la création et du retour vers Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est très, très général, ça. Ici, nous sommes déjà dans quelque chose où on va préciser le point de vue de l'ordre de nature, et dans l'ordre de nature, l'ordre de causalité et l'ordre de dignité. Vous voyez ? Donc, c'est une analyse plus précise. Tandis qu'ici, c'est plus général. Mais ce n'est pas plus sagesse. Les deux, c'est dans la sagesse.
Oui. Parce que là, il regarde seulement entre le principe et la fin. Donc on pourrait dire que c'est dans les deux, à la fois cause créatrice et cause finale, mais il se limite entre le principe et la fin, l'ordre entre les deux.
Entre les deux. Et puis oui, l'intention de saint Thomas, c'est de chercher s'il y a des métaxus. Hein, parce que c'est ça qu'on a l'objection. Donc l'orientation est très différente, puisqu'on cherche des métaxus. Là aussi, on cherchait l'intermédiaire. Où y a-t-il des intermédiaires? Pas d'intermédiaire ici. Pas d'intermédiaire ici. Donc, il y a un lien, vous voyez, un lien. Pas d'intermédiaire du côté de la causalité créatrice. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ici, on peut trouver des intermédiaires dans l'ordre de nature. Alors, l'ordre de nature, c'est aussi l'ordre de la finalité. Puisque l'ordre de nature, c'est la perfection. Vous voyez ? Alors, il y a un lien entre les deux, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas dire création, donc le point de vue du temps, causalité, donc ça. On serait tenté de faire ça. C'est deux plans différents, tout simplement. C'est deux plans différents, mais c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, puisque dans l'ordre de la création, in instanti, donc, de fait, dans l'ordre de la création, Dieu ne peut pas se servir d'intermédiaire. C'est directement la causalité première qui est en cause. C'est la causalité première. Ici, nous sommes en face de la causalité créatrice. Donc, Dieu ne peut pas. C'est ex nihilo. C'est à cause du ex nihilo qu'il ne peut pas y avoir un intermédiaire. Tandis qu'au contraire, du côté du retour vers la fin, il n'y a pas ex nihilo, puisque Dieu est là et la créature est présente. Et on cherche le retour vers Dieu. Et comment peut se faire ce retour vers Dieu? Donc, on est en face d'un ordre de perfection. C'est le retour vers Dieu. Et ce retour vers Dieu va impliquer, peut impliquer des intermédiaires. Mais donc, il faut bien voir que ces deux divisions sont différentes, mais il y a un parallélisme qu'il faut saisir. Alors, voyons tout de suite la seconde objection. L'âme et la chair sont unies au Verbe de Dieu dans l'unité de l'hypostase ou de la personne. Mais le corps appartient immédiatement à l'hypostase ou à la personne. Bien plus, il semble que le corps de l'homme qui constitue la matière soit plus près de l'hypostase que l'âme qui constitue la forme de l'être humain. Le principe d'individuation, en effet, impliqué dans le terme hypostase, semble être la matière. Ce n'est donc pas par l'intermédiaire de l'âme que le Fils de Dieu assumait la chair. Vous voyez comment on peut faire cette petite objection. Alors, réponse. Si l'hypostase du Verbe de Dieu était constituée simplement par la nature humaine, le corps serait plus près de cette hypostase, puisqu'il est la matière et que la matière est principe d'individuation. De même que l'âme, qui est la forme spécifique, est en relation plus prochaine avec la nature humaine. Ça, c'est très, très curieux. Mais parce que l'hypostase du Verbe est première et plus haute, ce seront les parties supérieures de la nature humaine qui seront les plus proches de cette hypostase. Et c'est pourquoi l'âme est plus proche du Verbe de Dieu que le corps. Et on entre dans l'hypothèse. Et l'hypothèse consiste justement à montrer que la chair est plus proche de l'individu, l'individuation. Donc, la nature est plus parfaite grâce à la chair, elle est achevée, l'union. Là. Alors on dira de ce côté-là, donc c'est plus proche de l'hypostase. C'est vrai, d'une certaine manière, pensez à la distinction de Maritain entre individu et personne. C'est peut-être ça qui va vous faire comprendre. Individu et personne. Qu'est-ce qu'est une personne? C'est l'individu. C'est pas l'âme. Donc, il faut passer par l'individu pour être une personne. Donc, le corps est un métaxu pour l'union de l'âme et du verbe et de la subsistance. Ça, c'est l'objection. L'objection consiste à dire ça. Alors, qu'est-ce que vous diriez devant ça? Vous voyez la confusion. C'est que là, vous êtes en devenir humain. Or, justement, on a dit qu'il n'y avait pas de devenir humain. Puisque c'est in instanti. Vous pouvez chercher dans la formation humaine que, en effet, ce n'est pas là qu'il y a personne. C'est l'âme unie au corps. Question très très délicate. Très très délicate cette question-là. Parce que saint Thomas ne serait pas d'accord avec l'objection du reste. Il dirait que l'âme humaine spirituelle est capable de subsister sans le corps, mais qu'elle ne subsiste pas en acte. Elle subsiste en acte par le corps. C'est vrai. Parce que l'âme est infusée dans le corps. Et donc l'individuation est d'une certaine manière métaxue, comprenez bien, d'une certaine manière, métaxue entre l'âme et l'hypostase. Mais on est là au niveau du devenir humain. Or, nous avons vu, à ce niveau-là, rien. On ne peut pas. Donc, nous ne devons pas regarder de ce côté-là. Nous devons essayer de comprendre l'ordre de la dignité. Alors, dans l'ordre de la dignité, c'est bien évident que le corps distinct de l'âme n'est pas assurable. Donc, c'est par là. Oui, c'est au fond une confusion qu'on fait entre le devenir et l'être. Or, on a supprimé ce point de vue-là. Troisième objection. Quand on supprime... Je vais vite parce que c'est intéressant, mais c'est assez subtil. Hein. C'est assez subtil, cette seconde objection. Quand on supprime un intermédiaire, les extrêmes dont il était le lien se trouvent séparés. Ainsi, supprimer la surface, la couleur qui se trouve dans le corps par son intermédiaire est séparée du corps. Ça, c'est le petit cinéma qu'on peut faire, n'est-ce pas ? Supprimer la surface, vous supprimez la couleur. Hein, imaginez que supprimer la surface, vous supprimez la couleur. Ça, c'est bien évident. Parce que le support de la qualité, c'est la quantité. C'est aussi le conditionnement. Or, l'âme, ayant été séparée du corps par la mort, l'union du Verbe à la chair est demeurée, comme nous le montrerons plus tard. Le Verbe n'est donc pas uni à la chair par l'intermédiaire de l'âme. Ça, c'est une très belle objection. Parce que c'est une objection que, de fait, elle est très actuelle, cette objection, hein, très, très actuelle, c'est-à-dire très actuelle, en ce sens que on a beaucoup de peine à comprendre comment le cadavre subsiste dans le Verbe, et donc est incorruptible. Le cadavre du Christ est incorruptible puisqu'il subsiste dans le Verbe. Si le cadavre du Christ est incorruptible parce qu'il subsiste dans le Verbe, vous voyez donc que le Verbe est uni immédiatement à la chair. Puisqu'il y a l'union du Verbe et du cadavre, sans l'âme. Tandis que si vous prétendez que l'union se fait par l'âme, une fois que l'âme disparaît, l'union disparaît. Vous dites que l'union du Verbe se fait par l'âme. Alors, évidemment, si c'est par l'âme, si l'âme disparaît, ben donc, le corps du Christ est cadavérique. C'est l'objection, hein, on va répondre. C'est l'objection, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis là. C'est Xavier Léon Dufour, n'est-ce pas, pour ne pas le nommer. Parce que ce qu'il a soutenu est soutenu par beaucoup aujourd'hui, hein. On lui a dit de ne pas le répéter, mais c'est entré dans la cervelle de beaucoup. Comme toujours, les erreurs, une fois que c'est dit, ça reste. La vérité, ça passe. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est parce que je crois que ça colle davantage au récipient. Ce qui est cause, sous le rapport de l'aptitude ou la convenance, peut disparaître, alors c'est ça. Nihil prohibet aliquid esse causam aliquius quantum ad aptiminem et congruitatem. Quotamen remoto id non tollitur. Je traduis. Ce qui est cause sous le rapport de l'aptitude et la convenance, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça peut se faire, peut disparaître sans que l'effet soit supprimé. Car un être qui dépend d'un autre dans son devenir n'en dépend plus une fois réalisé. C'est très délicat. Ainsi, l'amitié, est produite parfois par une circonstance qui disparaît ensuite sans que l'amitié cesse. J'ai aimé beaucoup quelqu'un à cause de ses cheveux. Or, il perd ses cheveux. Et je continue de l'aimer. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est la motivation et la finalité. C'est la circonstance et le point de vue de... C'est vrai, c'est les cheveux. Dans l'écriture, on montre que les cheveux ont un pouvoir extraordinaire, c'est un décrochage. Cantique des cantiques nous montre bien ça. Alors, j'ai aimé quelqu'un à cause de sa chevelure extraordinaire. Chevelure de lion, extraordinaire. Ou de lionne, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, j'ai aimé à cause de ça. Et puis, voilà, okay, maladie, tous les cheveux tombent. Évidemment, on met une perruque, mais c'est pas la même chose quand même. C'est quand même pas la même chose. Alors, vous voyez, par l'intermédiaire d'une motivation, j'ai été accroché. Ça tombe, l'amitié existant, on est au-delà de ça. Et si l'amitié disparaît à cause de ça, vous direz, c'était pas une véritable amitié, c'était resté au niveau du conditionnement. C'est la question du conditionnement et la question de la finalité. Mais qui est là, présente. C'est la conditionnement et la finalité. Et c'est ça qui est important à bien saisir. Ainsi, l'amitié est produite parfois par une circonstance qui disparaît ensuite, sans que l'amitié cesse. Ainsi encore, dans le mariage, la beauté de la femme concourt à l'union conjugale. Ah ça oui, je cherchais ce texte parce que je l'avais lu et je ne savais plus où c'était. Et c'est très important ça, c'est très très important. Je croyais que c'était dans un commentaire scripturaire. Parce que oui, quand on prêche sur le mariage, c'est très très important de rapporter cette parole de saint Thomas. C'est une chose très étonnante. Ainsi, dans le mariage, la beauté de la femme concourt à l'union conjugale, laquelle n'en demeure pas moins une fois la beauté disparue. Oui. Ça va un peu plus loin que les cheveux, mais c'est l'élément, vous voyez. C'est de la même manière qu'après la séparation de l'âme, l'union du verbe à la chair demeure. Admirable comme analogie. Extraordinaire. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et c'est vrai ce qu'il y a de mieux. C'est ça qui fait que c'est par l'âme que le Verbe de Dieu s'unit la chair. Vous voyez la chevelure ? C'est extraordinaire. Poussez l'analogie. Hein ? La chair est enveloppée par l'âme, ce qui est vrai. Et par là, elle est assumable. Et alors l'âme disparaissant, l'union de l'âme et du corps, l'union du Verbe avec la chair demeure. La fidélité. La fidélité de l'amour. Qui touche au point de vue de la nature humaine. Il assume la nature humaine. La finalité, c'est ça. C'est pas assumer l'âme, c'est assumer la nature humaine. Alors vous voyez, maintenant je relis le petit passage de saint Augustin. Saint Augustin écrit dans sa lettre à Volucinianus, « L'infinie puissance divine s'est unie une âme rationnelle. » Et par elle, un corps humain, et tout l'homme afin de le rendre meilleur. Alors, vous voyez comment saint Augustin, c'est beaucoup moins précis, hein, ipsa magnitudo divine virtutis, animam sibi rationalem. Donc, il s'est uni l'âme rationnelle. Saint Augustin ne dit pas ça. Qu'on aurait l'impression qu'il s'est uni d'abord l'âme rationnelle, puis après par l'âme le corps. Saint Thomas ne dit pas ça. Hein. Il dit l'ordre du temps, pas. Pas d'arrêt. On ne peut pas s'arrêter. Alors, on regarde tout de suite l'ordre de nature. Alors, l'ordre de nature, ce n'est pas au niveau existentiel. C'est une analyse qu'on fait pour préciser la dignité et la causalité. Alors, c'est par l'âme. Mais il ne faut pas dire qu'il y a eu une union avec l'âme rationnelle avant. Vous voyez, le texte de saint Augustin, c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant parce qu'on retrouve dans saint Augustin la philosophie platonicienne corrigée, c'est évident, mais elle demeure quand même. Alors, saint Thomas a une purification de regard qui va beaucoup plus loin. Et c'est dans le corps de l'article que vous voyez la différence. À ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que vous voyez l'affrontement Saint-Augustin, l'analyse aristotélicienne au service du mystère de l'union hypostatique. Oui, dans le ciel, Aristote était très heureux de servir à préciser ça. Je crois, ça fait partie de la gloire accidentelle d'Aristote, d'avoir servi à la théologie de saint Thomas. Article 2. Le Fils de Dieu a-t-il assumé l'âme par l'intermédiaire de l'intelligence et de l'esprit ? Poussons jusqu'au bout. Hein. Saint Augustin écrit : la vérité invisible et immuable a assumé l'âme par le moyen de l'esprit et le corps par le moyen de l'âme. Vous voyez, là encore, invisibilis est incommunicabilis veritas, per spiritum animam, per animam corpus accipit. Comme s'il y avait un parallélisme. Ça aussi, c'est du néoplatonisme. Dans le néoplatonisme, il y a l'âme et l'esprit, le nous. Dans l'aristotélisme, vous allez voir. Nous savons que soit en se plaçant au point de vue de l'ordre de dignité, soit en se plaçant au point de vue de l'assomption, de l'assomptibilité, l'on peut dire que le Fils de Dieu a assumé la chair par le moyen de l'âme. Donc, on reprend la conclusion précédente. Ces deux points de vue se retrouvent si nous comparons l'intelligence, que l'on appelle aussi l'esprit, aux autres parties de l'âme. Ah, aux autres parties de l'âme, hein. C'est à l'intérieur de l'âme qu'on va faire cet ordre différent. L'âme, en effet, n'est assomptible sous le rapport de la convenance que parce qu'elle est capable de Dieu. Ah, toujours le capax dei par l'intelligence. Hein. Vous voyez comme c'est important ici, à l'intérieur du mystère du verbe incarné, vous retrouvez comment il y a une convenance de